Africa numéro 1.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot, présentée par Hakim Djellouat sur Africa numéro 1.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la radio africaine. Il est 20h20 à Paris, c'est l'heure de votre émission sportive, l'unique sur la radio africaine. Nous parlerons de football et plus particulièrement des championnats africains et européens. Avec moi, pour justement m'accompagner dans le cadre de cette énième émission Tout feu, tout foot, Willy Dorkenou.
Oui, bonsoir Kim, bonsoir Chris, bonsoir la belle Hélène, bonsoir tout le monde.
Et à mes côtés également, en face de moi, Christian Chango, le journaliste, pour justement décortiquer toute l'actualité du foot africain, du foot européen. Salut Christian.
Bonsoir Hakim, salut Dorian Willy,
salut.
Bise à Hélène à la réalisation, coucou à tous nos auditeurs et en forme pour débattre du ballon.
Allez, le ballon rond au débat, effectivement. On va en parler tout au long de cette soirée. Au sommaire de cette édition, lumière sur les matchs internationaux zone Afrique et les matchs retour comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. La femme à l'honneur dans Tout Feu Tout Foot et sur le continent, bien sûr aussi, avec une Coupe d'Afrique des Nations féminines qui va battre son plein au mois de novembre. Le détail dans votre émission. Carton rouge pour une poignée de supporters en Algérie, nous évoquerons les violences lors de la fin d'un match de championnat de première division en Algérie. Le football algérien qui a de nouveau été touché par une vague de violence il y a quelques jours. Comment stopper ces violences dans les stades africains? Quelles solutions de sécurité la CAF et les fédérations sportives doivent y apporter pour éviter des morts dans le milieu sportif? Vous aurez la parole, auditeur, auditrice. Vous pourrez vous exprimer avant justement de voyager au cœur des championnats européens. Nous poserons nos valises en France pour comprendre comment le PSG assure en ce début de saison en démonstration le week-end dernier. On en saura aussi un petit peu plus sur l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Algérie avec un certain réveil du coach Vahid avec le FC Nantes. Retour sur le premier match difficile de Thierry Henry. On passera aussi du côté de la Liga avec Adama Sourabié, notre correspondant. Il va nous décortiquer un petit peu aussi ce championnat où on a quelques sièges éjectables du côté de Madrid. On en parlera tout à l'heure. Place tout de suite aux championnats africains.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Le match qui a commencé Tout Feu Tout Foot, l'émission qui vient justement parler de football africain, de football européen avec toute l'équipe, Willy Dorkenou, Christian Chango, le coach Lamine, on pense à lui et on lui dit toutes nos condoléances pour la tata qui vous a quitté du côté de l'Afrique, du côté du Sénégal. Une pensée de la part de toute l'équipe de Tout Feu Tout Foot pour toi, coach Lamine Badiane, si tu nous écoutes. Et on salue également tous les auditeurs, toutes les auditrices. N'hésitez pas à nous contacter, bien sûr, sur ce numéro. Appelez-nous au 01 55 07 58 00 depuis la France. Depuis l'international, un seul numéro, 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout dans le monde, l'Asie, les Amériques, l'Afrique, l'Europe. N'hésitez surtout pas, vous nous écoutez sur le 107.5 à Paris, à Melun sur le 92.3 FM, à Mantes-la-Jolie sur le 87.6 et également en DAB depuis peu du côté de Lille dans le nord de la France ou sur internet. N'hésitez pas, depuis partout dans le monde vous pouvez nous écouter via cette adresse internet www.africa1.com. Vous pouvez également intervenir, réagir sur notre page Facebook tout feu tout foot ou éventuellement les réseaux sociaux tout comme le réseau social Twitter. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions, à intervenir et à nous contacter 01 55 07 58 00. L'émission commence, c'est les championnats africains le continent. On le rappelle, lumière sur ces matchs internationaux zone Afrique. On parlera aussi de football féminin de cette première partie dans ces championnats africains. Mais on va parler surtout de ces rencontres qui ont eu lieu, Willy Dorkenou, Christian Chango, le week-end dernier, la semaine dernière, avec quelques équipes qualifiées on a eh bien, les premiers qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui sont connus. On a bien sûr les pharaons d'Égypte, on a les malgaches de Madagascar qui ont réussi à arracher leur ticket parmi ces quatre nations. On a aussi les lions de la Teranga, le Sénégal, les aigles de Carthage, la Tunisie qui ont réussi, Christian, à gagner leur ticket pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui va se dérouler du 15 juin au 13 juillet au Cameroun.
Oui, hein, ça y est, on est lancé, on connaît déjà les premières équipes, les premières nations qualifiées, comme tu l'as dit, Hakim, mais on voit, hein, donc surtout dans le groupe A et dans le groupe J, donc là le Sénégal et le Cameroun et Madagascar, pardon, qui ont 10 points chacune, les deux nations. Donc c'est quand même une performance assez élevée. Et dans l'autre groupe, hein, tu l'as précisé, hein, la Tunisie et l'Égypte, on est habitué, hein, la Tunisie, je crois que ça doit être la 13e, 12, 13 ou 14e fois de suite qu'ils se qualifient. Donc c'est un record, bah, justement, qu'ils partagent avec, ouais, les Égyptiens en plus. Donc bravo, des équipes qui sont dans la continuité. Et puis on voit qu'il y a déjà trois mondialistes, hein, qui étaient présents en Coupe,
exactement,
du Monde en Russie, le Sénégal, la Tunisie et l'Égypte, qui sont déjà qualifiés. Donc ça confirme un peu la bonne passe de ces trois nations. Et Madagascar, on va en parler, c'est historique, hein. Donc qualification
historique pour Madagascar. Christian Chango, vous l'avez dit, après cette analyse bien sûr complète sur ces qualifiés, on va entendre aussi Willy Dorkenou. Salut Willy, bienvenue sur cette énième émission Tout Feu Tout Foot. Votre avis, Willy, sur ces quatre nations qualifiées. Christian l'a dit, pour Madagascar, historique,
ouais.
Sénégal, bien sûr, ils ont participé à la dernière Coupe du Monde avec la Tunisie, avec l'Égypte.
Oui, mais la CAN est à 24 équipes cette fois-ci.
Ouais.
Donc, les meilleurs, les vrais meilleurs, je veux bien oser dire, les vrais meilleurs en Afrique doivent, ouais, être présents au Cameroun. Mais bravo aux Malgaches, surtout. Mais pour moi, ce n'est pas une surprise parce que je sais qu'il y avait du boulot à Madagascar. Donc, comme on dit, le travail, ça paye.
Ouais.
Bravo aux Malgaches parce que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils étaient au travail. Et ça a payé. Donc, un exemple pour tous les autres nations africaines qui ont envie d'être bons.
Ouais, un très très bel exemple, Christian Chango.
Oui.
Madagascar, c'est une première, vous l'avez dit, c'est historique, Christian. Parmi ces quatre nations qualifiées, figure effectivement Madagascar, le pays d'un certain président de la Confédération africaine de football. Ça doit aussi le réjouir, en tout cas réjouir tout un peuple surtout, et le football malgache, parce que il a sa place, et bien, dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2019.
Exact, Hakim, je pense que évidemment, bien sûr, le président de la CAF, en tant que malgache, évidemment, à titre personnel, pour lui, ça doit être une fierté, et,
ouais,
c'est une bonne chose. Et puis, il faut pas minimiser, hein, les résultats de Madagascar. C'est pas une qualification surprise. Je les avais vus au mois de mars en match amical ici du côté de la région parisienne. Ils avaient affronté le Togo. Et après cette rencontre, on en avait discuté. Et je vous avais dit avoir été agréablement surpris par le niveau de jeu malgache, et que vraiment il y avait des pistes pour l'avenir. J'avais discuté avec, ouais, le sélectionneur Monsieur Dupuis, et il m'avait dit justement que eux ils travaillent et qu'il avait confiance déjà au mois de mars, il avait confiance dans la qualification de Madagascar. Donc là on voit 10 points à égalité avec le Sénégal, c'est costaud quand même.
C'est, oui, costaud, c'est costaud, Willy Dorkenou.
Oui.
Madagascar, c'est une première. On a parlé, hein, de la déroute là contre le Bénin, de la difficulté de l'Algérie face au Bénin, on va en parler tout,
oui,
à l'heure. Mais Madagascar, ouais, sincèrement, c'est formidable pour ce petit pays de football. Qui n'en est pas un, bien sûr, on en,
ouais,
a parlé de la formation au niveau aussi des équipes d'un point de vue continental, ça commence un petit peu à se développer.
Oui, bravo aux Malgaches, parce que moi je me rappelle très bien de cette équipe malgache. Et j'étais enfant au Ghana, j'étais en vacances au Ghana, j'ai vu les Ghanéens jouer contre cette équipe malgache quand j'étais tout petit, et on les appelait les troisièmes. Et donc c'était la risée des Ghanéens. Et donc, je n'ai jamais oublié le fait de voir cette équipe qualifiée pour la CAN. Moi, pour moi, c'est une progression énorme. Je suis encore vivant. Donc, pour moi, c'est très, très important que les Malgaches soient qualifiés une,
ouais,
fois à mon vivant et à une CAN.
Mmh.
Parce que je les ai vus ridiculiser au Ghana quand j'étais jeune.
Et là, les voir effectivement se qualifier parmi trois autres grosses nations africaines.
Je suis très, très heureux, je suis pas malgache.
C'est un plaisir, et ça prouve aussi le niveau des Malgaches. On le rappelle, ils étaient 16 000 spectateurs mardi la semaine dernière à Ventovorona pour assister à la première qualification historique de leur Barea, les Zébus comme on les appelle, aux dépens de la Guinée équatoriale 1-0. La délivrance était venue Christian Chango de Njiva qui évolue en Thaïlande à la 42e minute d'un match forcément un petit peu difficile puisque c'était la tension qui a régné dans cette rencontre.
Bien sûr, la tension, on se rappelle de ce qui s'était passé lors de la rencontre face au Sénégal. Donc déjà jouer un match où il y a de la pression toujours quand on joue au football et on le sait très bien. Donc déjà jouer un match avec une potentielle qualification derrière. En plus le match n'est pas joué, le match est joué à domicile mais pas dans leur stade principal. Donc il y a toute une dramaturgie autour et puis il faut avoir les nerfs solides. Il y a une qualification au bout des 90 minutes, donc au vu de ce qu'on a vu du match, franchement les joueurs avaient la pression, mais les rares occasions que Madagascar a eu, et surtout là que l'occasion principale a été transformée, et ils ont réussi à tenir le score après, donc dommage pour la Guinée équatoriale qui pensait peut-être faire quelque chose, mais se retrouve éliminé tout comme le Soudan, donc victoire méritée de Madagascar face à la Guinée équatoriale, 1-0.
Ouais, victoire méritée. On a aussi le Sénégal, les Lions de la Teranga qui terminent premier avec 10 points dans ce groupe A. On le rappelle, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la CAN 2019. Il en est déjà fait dans ce groupe A. Sénégal, Madagascar qualifié, Guinée équatoriale et Soudan qui sortent par la petite porte, même si la Guinée équatoriale n'a pas démérité dans ce groupe un petit peu compliqué, oui. Un petit peu difficile.
C'est ça qui met surtout juste un petit mot sur le Soudan-Sénégal. Ouais. Le Sénégal l'a emporté difficilement à la toute fin de rencontre, vers la 85-86, par là ils ont marqué le but. Ça a été compliqué pour les Sénégalais. Le Soudan s'est repris, a essayé de se reprendre. Ils sont quand même à 0 points. Je vous en parlais la semaine dernière. Je vous disais que ça devait gronder un peu dans les oreilles des joueurs soudanais. Et il y a eu une réaction d'orgueil. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et le Sénégal a réussi en toute fin de rencontre, alors qu'il faut rappeler pour le Sénégal, il y avait quand même beaucoup de joueurs qui étaient absents pour blessure.
Ouais, qui étaient absents, effectivement. On va s'intéresser tout de suite aussi à la Tunisie, puisque Salim qui nous contacte, Salim Layouni, lui qui est spécialiste du football tunisien, mais d'une manière générale du football africain et plus encore. Salim, bonsoir et bienvenue sur la radio africaine. Comment ça va, Salim ?
Bonsoir Hakim, bonsoir Christian, Willy.
Salut Hakim. Salut
à Salim. Tous les auditeurs.
Alors, on le rappelle, la Tunisie qualifiée, on l'a donné en prélude, en sommaire de cette édition. Les Aigles de Carthage qui se sont qualifiés, mais on n'a pas très très bien compris ce qui s'est passé. Il y a le sélectionneur qui a été limogé. Tunisie qualifiée pour la CAN 2019 et le sélectionneur limogé. Est-ce
victoire
que vous avez
2 buts
des informations
face au Niger
concernant ce limogeage avec le score qu'a précisé Christian?
Exactement, Hakim. Donc, j'ai appris la nouvelle. Hein. J'ai appris la nouvelle. Donc, j'ai attendu un peu avant de communiquer là-dessus. J'ai eu donc les tenants, les aboutissants de malheureusement cette
affaire. Ouais.
Ridicule affaire. Je vais recontextualiser tout ça. Mm-hmm. Bon, la Tunisie gagne contre le Niger à Niamey et se qualifie pour la CAN après bien sûr une victoire donc lors de la première journée contre l'Égypte à Rabat. Ouais. Ensuite une victoire à l'Eswatini qui est le Swaziland, c'est le nouveau nom de l'Eswatini, ça s'appelle l'Eswatini maintenant.
Ouais.
Ainsi que la victoire donc contre le Niger à Rabat et la victoire là-bas de 2-1 à Niamey. Mm-hmm. Bon. Donc là, on a une équipe de Tunisie avec un Fawzi Benzarti qui a pris l'équipe. Donc, moi, vraiment, je vais être vraiment objectif et transparent avec vous.
On comprend rien parce que comme on le dit sur le plateau là, on est vraiment circonspect, on est super étonné car il y a victoire totale sur toutes les rencontres.
Je vais être objectif, ouais. Hakim. Moi, je vais être très objectif et très honnête avec vous tous, comme je l'ai toujours été. Moi, Benzarti, j'étais pas pour sa nomination.
D'accord.
Maintenant, il a été nominé. Ouais. Moi, j'ai dit bon. C'est-à-dire que moi, je suis loyal. C'est-à-dire qu'on l'a nominé, bon, il est...
Il y a des résultats.
Il n'y a pas de problème, je le juge sur son travail.
Ah oui, il y a des résultats.
Il est arrivé au niveau de l'équipe nationale, et pour la première fois depuis 15 ans, l'équipe de Tunisie a un avant-centre qui s'appelle Chawat, qui joue au club sportif sfaxien. Et Fawzi Benzarti a décidé de mettre Kenissi sur le banc et mettre Chawat titulaire. Le petit jeune Chawat, 22 ans, claque un doublé à Niamey. Mm-hmm. Mais c'est pas que son doublé, c'est sa la manière avec laquelle il a claqué ce doublé. La Tunisie n'a pas d'avance dans son histoire, n'a pas. On est obligé à chaque fois, même dans le championnat tunisien, il y a eu Bagdad Bounedjah, il y a eu que des étrangers qui ont marqué l'histoire du championnat tunisien. Mais les Tunisiens, il y en a pas en avant-centre. La preuve est que Kasri a joué avant-centre en Coupe du Monde. Bref, Fawzi Benzarti a été limogé. Pourquoi? Parce que le président de la fédération, Wadi Hajeri, manquait de respect à Fawzi Benzarti et essayait d'intervenir dans les choix des joueurs. Il y a des choses louches qui se sont passées à Kim lors de la dernière Coupe du Monde. Déjà, moi, j'ai pas compris la sélection de Ben Alouane à la Coupe du Monde. Le gars a 31 ans, n'est jamais venu en équipe nationale. Il a été préféré à Mosni, qui était à Dundee, et à Abdennour, qui était à Marseille. Mais Abdennour a joué une vingtaine de matchs. Mosni a joué 14 matchs. Ben Alouane n'a pas joué avec Leicester. Il est apparu qu'une seule fois, toute une saison, il n'a qu'un match. Il est réserviste à Leicester. Le président de la fédération aime bien Ben Alouane. Ils l'ont appelé à la Coupe du Monde. Donc Ben Alouane a volé la place d'un joueur. Bon, c'est pas de sa faute, hein, mais c'est le président de la fédération. Il l'a mis pour voler la place d'un joueur qui a participé aux éliminatoires de la Coupe du Monde.
Donc c'est plus un problème de personne.
Mais non, mais je t'explique bien comment ça s'est passé. Ben Alouane est là. Donc, catastrophique. De toute façon, match objectif, on peut demander à Christian Tchango, il est là. Christian, Ben Alouane, le niveau de Ben Alouane, comment il est? Je te demande.
Il est comme tu l'as décrit, j'ai rien d'autre à ajouter.
Est-ce qu'il y a le niveau Ligue 1? Ligue 1. Il a le niveau Ligue 1?
C'est compliqué pour lui.
Voilà. Donc, il est rentré à la Coupe du Monde contre la Belgique, il a participé au match amico. Ce gars-là a 31 ans, il n'était jamais vu en équipe nationale. Je ne sais pas pourquoi le président de la fédération a voulu le ramener. Nabil Mahloul aussi, voilà, ils l'ont ramené. Maintenant, Ben Alouane a disparu des radars. Bon. Benzarti, lui, il compose l'équipe nationale sur beaucoup de locaux, mais des bons locaux, des très bons locaux. Et ça nous a permis d'avoir de très bons résultats et de se qualifier à la Coupe du à la CAN. Là. On est qualifié à la CAN pour le Cameroun. 14e qualification d'affilée pour la Tunisie, qui égale le record de l'Égypte, qui a été qualifié de 84 à 2010. Donc la Tunisie, de 94 à 2019, égale le record de l'Égypte. 14 qualifications d'affilée en phase finale de CAN. Bon. Et on le vire. Pourquoi on le vire? Parce que Benzarti n'accepte pas que le président de la fédération Wadi Hajeri rentre, se mêle de ses choix et de son travail.
Mais c'est un cadeau de qualification catastrophique. Franchement, c'est pas respectueux vis-à-vis de Benzarti parce que il a perdu aucune rencontre, comme on l'a souligné tout à l'heure. Voilà, 3 victoires. Donc là, c'est plus un problème, si on comprend bien, messieurs, sur ce plateau. C'est un problème de personne.
Non, c'est pas un problème de personne. Je connais bien cette partie de l'Afrique. Pardon. Et c'est une partie où les coachs sont très fragilisés. C'est-à-dire que tu gagnes, tu gagnes pas. La presse ou je sais pas qui peut décider de changer. Et donc ça, c'est une culture là-bas. C'est triste, mais je suis obligé de le dire. Donc, sauf un peu en Égypte, mais en Algérie, en Tunisie, au Maroc, le peuple a droit de faire changer. Même un match nul, on peut changer. Donc, je sais de quoi je parle. Et Salim sait que je connais cette région sur le plan football. Donc, c'est triste parce qu'un coach, on doit le laisser travailler, le juger, et sincèrement aussi, parce que ce qui est arrivé à Rabah Madjer et compagnie, j'ai vu. Donc, pas qu'à lui, Barou Zaki et compagnie. Et donc, c'est triste de traiter les coachs de cette façon-là.
Alors, on a Maher, Kanzari et Mourad Okbi qui vont devoir assurer l'intérim lors des deux prochains matchs officiels de la sélection de la Tunisie pour cette préparation à la CAN 2019, même si la Tunisie est qualifiée. Jusqu'à c'est ce qui a été dit en fait dans un communiqué de presse, jusqu'à la nomination d'un nouveau sélectionneur. Est-ce qu'elle s'est exprimée la Fédération tunisienne de football, Salim?
Oui, elle s'est exprimée par le biais de Ahmed Maghrebi qui fait partie du bureau fédéral, parce que Wadi Hajeri n'a pas eu le courage de s'exprimer. Parce que Wadi Hajeri, il faut dire la vérité, il n'est pas courageux sur cette affaire-là. Ouais. Mais j'aimerais te donner une information. Vraiment, que peut-être tu n'as pas eu Hakim, mais Fawzi Benzarti n'avait pas de contrat encore avec l'équipe nationale.
Ouais, il est venu gratuitement
et il a demandé. Non, c'est même pas. Il est venu gratuitement. Il a quitté le Wydad, avec qui il était très très bien. Il est venu en équipe nationale parce que lui, il voulait l'équipe nationale. Bon, il est venu, il n'a même pas signé de contrat et il a dit les 3 mois de salaire que vous me devez, vous n'avez qu'à les donner à des associations, à des gens qui ont besoin. Moi, c'est pas là pour le défendre. Moi, comme je le dis, objectivement parlant, moi, je voulais pas de sa venue.
Alors, Fawzi Benzarti s'est exprimé selon un quotidien, numérique, hein, sur Internet. Il s'est exprimé en disant qu'il était choqué par cette décision du secrétaire général de la Fédération tunisienne de football, Wajdi Awadi, en disant, je cite, « Il y a des parties derrière mon limogeage qui n'a aucun rapport avec les résultats », puisqu'il s'est qualifié, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. « J'ai beaucoup à dire sur les magouilles qui prouvent que le football est très miné par les problèmes extrasportifs. J'en parlerai très bientôt. » Donc ça veut dire qu'il va s'exprimer, Fawzi Benzarti. On serait vraiment intéressé de l'accueillir aussi pour qu'il puisse s'exprimer et expliquer un petit peu comment on peut limoger un sélectionneur, messieurs, avec des résultats probants, avec des résultats positifs et qui qualifie une nation à une Coupe d'Afrique des Nations. Expliquez-moi comment on peut limoger une personne.
Hakim, ce qu'il va dire...
C'est scandaleux.
Oui, mais c'est pas grave. Mais ce qu'il va dire, c'est grave, je veux dire. Et ce qu'il va dire, est-ce que c'est dans l'intérêt du football tunisien? C'est ce qu'il faut savoir. Il va dire des choses qui vont faire du mal au football tunisien.
Exactement alors, ce que tu dis. Il s'est exprimé. Moi, j'ai suivi tous les médias tunisiens. Il s'est exprimé. Voilà, pour prouver comment Willy connaît parfaitement la Tunisie et le football africain. Ce qu'il dit, Willy, c'est ce qu'a dit Fawzi Benzarti. Il a dit, moi, je vais juste vous raconter une anecdote. À la mi-temps du match, il a dit ça, je cite Fawzi Benzarti. Oui. À la mi-temps du match Eswatini contre Tunisie, la Tunisie mène 2-0 là-bas. Le président de la fédération pique une colère à la mi-temps, alors qu'il n'a pas à s'exprimer. Et là, Fawzi Benzarti a compris, a dit « Ah mais le président de la fédération ne me respecte pas. Mais de toute façon, si c'était un entraîneur étranger, il n'aurait jamais fait ça. Mais puisque c'est moi, il se permet de faire ça, alors que moi, lui, il a gagné Ligue des Champions, Coupe de la Confédération, il a tout gagné dans sa carrière. Il a été en finale de la Coupe du Monde des clubs avec le Raja Casablanca, deuxième club à être en finale après le Mazembe, en Coupe du Monde des clubs. Il a tout gagné, mais il n'est pas respecté. Quand il a vu ça, déjà, il a senti que c'était un climat... Il a remarqué que c'était un climat... C'était un mauvais climat.
Malsain.
Tu sais, Hakim, c'était déjà le président de la fédération a annoncé la couleur en faisant ça. Donc, déjà, tu vois, Hakim, il s'est exprimé. Il a dit il y a des choses, je vais même, pour l'intérêt du football tunisien, il a dit qu'il va même pas porter plainte devant la FIFA.
On va essayer de rentrer en contact avec Fawzi Benzarti pour l'avoir en direct, pour justement qu'il puisse s'exprimer.
Il rapporte ses propos. Il a dit qu'il ne va pas porter plainte. Il portera pas plainte auprès de la FIFA. Il a dit qu'il n'a pas eu de contrat pendant les 3 mois. Il a dit les 3 mois de salaire que vous me devez, vous les reversez à une association.
Une action caritative.
Voilà. Mais sportivement, maintenant on va parler sportivement à Hakim. Je sais pas, est-ce que j'ai le temps de te dire 2-3 mots? Je sais pas s'il y a la pub qui va arriver ou pas.
On vous écoute, allez-y, salut.
Alors, sportivement, là maintenant, c'est catastrophique parce que Fawzi Benzarti, il sait voyager en Afrique et il ramène, et nos entraîneurs locaux en général, que ce soit Nabil Malour ou Fawzi Benzarti ou autres, tous nos entraîneurs locaux, même s'ils sont limités, ils savent très bien voyager en Afrique. Et la Tunisie est la meilleure, il faut savoir, parce que ça c'est une stat, une véritable statistique, la Tunisie est la meilleure équipe africaine à l'extérieur. Sur les derniers éliminatoires Coupe du Monde et les derniers éliminatoires Cannes, la Tunisie est la meilleure équipe à l'extérieur. Donc nous, si on va ramener maintenant un étranger, il va pas pouvoir gérer les déplacements comme les locaux les gèrent. Parce que la Tunisie a ramené la victoire de Niamey. La Tunisie avait ramené le point qui a qualifié à la Coupe du Monde, là, le point à Kinshasa. La Tunisie avait ramené un point d'Abuja. Et il faut savoir que la Tunisie est la première équipe africaine à être allée gagner au Nigeria. Et ça, il faut quand même le faire dans les années 70. Donc, dans son histoire, la Tunisie a toujours été forte à l'extérieur en Afrique. Et maintenant, avec des entraîneurs locaux, je le dis bien. Maintenant, avec entraîneurs étrangers, je sais même pas comment ils vont faire pour aller voyager à l'extérieur. Et je sais même pas, Hakim, comment la Tunisie va aller à la CAN au Cameroun. Ça s'annonce déjà. Je pense, moi, que ça va être un échec.
Ouais, c'est compliqué, c'est vraiment triste. On va fermer la parenthèse de cette sélection tunisienne. On le rappelle, les Aigles de Carthage qui se sont qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec un bilan de 3 victoires en autant de matchs, malgré un fond de jeu quelquefois un petit peu difficile. La Fédération tunisienne de football a justement limogé sans raison apparente Fawzi Benzarti, puisqu'il a qualifié la sélection tunisienne. C'est ça qui est contradictoire et choquant. On propose justement aux supporters tunisiens et supportrice, pourquoi pas nous contacter pour nous donner votre avis. 01 55 07 58 00. On aimerait bien vous entendre. 00 33 1 55 07 58 00. Depuis partout dans le monde. On va rappeler peut-être les premiers qualifiés, Christian Chango, et on va peut-être enchaîner sur un autre groupe. On a parlé du groupe A avec le Sénégal et Madagascar qualifiés. C'est une première historique à la CAN 2019. Et ensuite, on passera à un autre groupe.
Oui, c'est ça, Kim. Donc, dans le groupe A, le Sénégal et Madagascar qualifiés, Guinée équatoriale et le Soudan éliminés. Sénégal a battu le Soudan au Soudan 1-0 et Madagascar a battu la Guinée équatoriale à domicile 1-0. Sénégal et Madagascar à égalité de points avec 10 points, la Guinée équatoriale 3 points et le Soudan toujours 0 points. Dans le groupe J, donc, dont on vient de parler avec la qualification de la Tunisie et de l'Égypte, donc le Eswatini et le Niger éliminés, donc la Tunisie a battu le Niger 2-1 et l'Égypte s'est imposée face au Eswatini 2-0, donc Tunisie 12 points, donc 4 matchs, 4 victoires, Égypte 9 points, Eswatini 1 point et le Niger 1 point.
L'Égypte qui tient sa qualification, messieurs, sur le plateau, Woody Dorkenou, Christian Chango. On va donner la parole dans quelques instants à Marco Momo qui nous rejoint depuis la République démocratique du Congo. On lui demandera aussi son avis et son point de vue quant à ce groupe J pour ensuite parler des nations comme le Congo et la RD Congo. Messieurs, C'est bon pour l'Égypte pour faire suite effectivement à cette belle Coupe du Monde, même si ça a été compliqué dans le premier tour. Les Égyptiens qui tiennent leur qualification à cette CAN 2019.
Oui, j'ai toujours dit ici que l'Égypte, c'est la mère du football africain. Donc, comme je vais me répéter, c'est-à-dire qu'il y a 24 équipes. Donc, les vrais, je répète, les vrais grands d'Afrique doivent être présents au Cameroun.
Ouais, les grands d'Afrique, Christian Chango, qui font tout comme leurs voisins, on le rappelle, Madagascar, Sénégal qualifié, l'Égypte et la Tunisie aussi, l'Égypte, pharaon d'Égypte, qui vont arriver avec une envie de bien faire, peut-être une envie de remettre un petit peu leur statu quo donc à jour lors de la CAN 2019.
Oui, et pour l'Égypte, on les connaît, c'est une des plus grandes nations du football africain, donc les retrouver à ce niveau-là, quand on voit le groupe, sans minimiser les adversaires, la Tunisie et l'Égypte, on les voyait quand même sortir en cas hors accident industriel, on les voyait sortir de cette poule-là. Et moi, ce que j'ai aimé pour l'Égypte, c'est que ils ont un jeu où quand Mohamed Salah n'est pas là, c'est compliqué pour eux. Et offensivement, je parle. Et là, ils ont, sur ce que j'ai vu de cette rencontre, l'Égypte a réussi à trouver les solutions pour aller pour pallier à l'absence de Mohamed Salah et de marquer. Donc content de la qualification, mais on s'y attendait. Et puis, comme le Willy le répète, c'est une CAN à 24, donc c'est fait pour pas qu'on se retrouve avec des grandes nations, mais avec des éliminations surprises. Donc c'est fait quand même pour que tout le monde, toutes les plus grands représentants puissent se qualifier. Après, faut toujours rester vigilant et jamais sous-estimer l'adversaire, puisque on n'est jamais à l'abri d'une surprise.
Ouais, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Selon Christian Chango, on va demander peut-être l'avis à Marco Momo qui nous appelle depuis l'international, depuis l'Afrique, en RD Congo, en République démocratique du Congo. Notre intervenant et correspondant, Marco Momo, bienvenue, bonsoir. Votre avis sur ces quatre premières nations qualifiées en quelques mots rapidement, avant la première page de pub, concernant bien sûr le Sénégal, on en a parlé tout à l'heure, Madagascar, première historique, et la Tunisie et l'Égypte qui se sont qualifiées donc, pour cette CAN 2019.
Bonsoir à tous, merci pour cette intervention. J'aimerais ici revenir sur, c'est vrai, le Madagascar, c'est quand même historique, comme vous venez de le souligner. Jamais on attendait les Madagascar à ce niveau, quand même, de la compétition. Quand vous regardez que les Madagascar étaient dans un groupe assez relevé, puisque la Guinée équatoriale est habituée depuis un certain temps à prendre part à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons nous rappeler des ciels de la phase qu'elle a organisée il y a de cela 3 ans. Elle a été demi-finaliste, mais elle a perdu face à la République démocratique du Congo. Et devant, quand même, il y a le Sénégal, puisque le Madagascar a fait un nul contre le Sénégal. C'est ce qui permet au Barré de Madagascar d'être à 10 points ex-aequo avec le Sénégal à la différence de goal à tirage. Je pense que ça, c'est vraiment historique et c'est ce qui fait même la beauté des choses dans ces éliminatoires Cannes-Cameroun 2019. C'est vrai, c'est historique. On passe de 16 à 24 et là, c'est historique de retrouver quand même le Madagascar à ce niveau de la compétition. Et derrière, ce sont des équipes qui ont essayé seulement de rassurer leur statut à l'instar du Sénégal, à l'instar également de l'Égypte, tout comme de la Tunisie qui a fait un parcours exceptionnel puisque en 4 journées, la Tunisie a récolté 12 points devant et pour n'encaisser qu'un seul but, même si devant l'attaque n'est pas vraiment en feu, contrairement à l'Égypte qui nous a gratifié quand même des 12 buts.
Et merci Marco pour cette intervention. On va s'intéresser peut-être à la République démocratique du Congo, Christian Shango, oui. Dans son groupe. Le groupe G, effectivement.
Exactement.
On a des choses à dire sur ce groupe.
On va donner les résultats de la 4e journée donc, du groupe G. Zimbabwe face à la RD Congo, un but partout. Et dans l'autre rencontre entre le Liberia et le Congo-Brazzaville, 2-1, victoire du Liberia. Au classement, le Zimbabwe est premier avec 8 points. La RD Congo, 2e avec 5 points, Congo-Brazzaville 3e avec 4 points et le Liberia troisième ex-aequo avec 4 points aussi. Donc c'est serré entre les 4 équipes, hein. Tout le monde peut se qualifier, tout le monde peut être éliminé. Donc la prochaine journée avec le match entre le Congo-Brazzaville et la RD Congo, ça va être
décisif.
Ça va être un match intense entre les deux frères du Congo.
Et Willy Dorkenou, RDC, Liberia, là, qui remporte son match à domicile. Les hommes du grand frère George, Mr. George, le nouveau président du Liberia, qui remporte leur match face au Congo 2-1. Et le Zimbabwe, qui tient eh bien, en échec la RD Congo de Florent Ibenge.
Oui, c'est un groupe assez difficile. On savait parce que le fait d'avoir les deux Congos, ça fait un derby qui fait que le groupe devient difficile. Donc, les Zimbabwéens, ils étaient au courant. Donc, ils se sont mis à l'abri très, très tôt.
Ouais.
Donc, ils savaient que c'était un championnat. Donc, ils sont comportés en tant que champions. C'est-à-dire que les matchs n'ont jamais été pris à la légère. Donc, le reste, il faut que le Congo, le grand Congo, montre au petit Congo qu'ils sont les grands. Donc,
ça reste...
je parle de superficie. Hein.
Oui, au niveau de la superficie, bien sûr. On va s'intéresser avec vous, Marco Momo, sur cette analyse, justement, puisque vous avez suivi ces rencontres pour nous, pour les auditeurs, les auditrices de l'Afrique tout entière, mais notamment aussi de la RD Congo. On sait que... vous êtes vraiment attaché aussi à cette nation, la République démocratique du Congo et le Congo. Ça va beaucoup moins du côté de la RDC. Les hommes de Florent Ibenge qui sortent avec un seul point de leur double confrontation avec le Zimbabwe. On le rappelle, leader de leur groupe, le Zimbabwe. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match où a été tenu en échec la République démocratique du Congo face au Zimbabwe? On le rappelle, score final un partout.
S'il faut parler du bilan de la République démocratique du Congo lors de la double confrontation, on dirait que les Léopards sont tombés sur une très bonne équipe du Zimbabwe, puisqu'on a tendance toujours à parler de cet échec de la RDC, mais devant, il y avait quand même, en face, il y avait une bonne équipe du Zimbabwe, avec des joueurs qui avaient une efficacité insolente devant les buts de la République démocratique du Congo, surtout avec une défense qui a essayé de tâtonner partout le moyen. On l'a vu lors du match aller, on l'a vu également lors du match retour où Kama Bigat n'a mis qu'une minute pour ouvrir les scores, puisque derrière il y avait un problème défensif que Jean-François Ibenge n'a pas su résoudre. Donc je pense que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, il faudrait tout remettre en question. Ça part également de l'état des formes des différents cadres de cette formation dans leurs clubs respectifs. Pour la plupart, ils reviennent des blessures ou encore ne sont pas en super forme dans leur club. Je parlerai ici de Shadrack Akolo. Je parlerai également de Yannick Yalabolasi qui a connu des moments trop difficiles depuis sa blessure du côté de Everton. Yannick, certes, Cédric Bakambu évolue à un très haut niveau, mais c'est le championnat chinois quand même. Il y a des garçons qui évoluent, certes, dans de très hauts niveaux. Je prends ici Chancel Bemba qui est revenu à peine d'une blessure. Donc c'est en fait ça qu'il faudrait remettre en cause. tous ces choix apportés par Jean-Floral Dengue, puisque il a préféré faire revenir à la maison des cadres, alors que il y avait mieux à faire, peut-être se concentrer sur des garçons qui ont encore la compétition en jambes. Ouais. Voilà que la République démocratique du Congo, sur les 6 points possibles, n'a plus récolté qu'un point. Et là, il faudrait dire merci quand même au Libéria, puisque si le Libéria n'avait pas battu le Congo, le diable rouge du Congo, on devrait avoir le Congo peut-être un peu en deuxième position devant la République démocratique du Congo. Vous avez tout à l'heure évoqué les derbys du fleuve Congo. Ça ne sera pas aussi facile, puisque le Congo voudra se racheter après cette défaite lors de la première journée, 3-1 au stade de Martyrs de la Pentecôte.
Christian Chango.
Oui, Marco Momo, bonsoir. Ma question, justement, moi, elle porte donc sur cette rencontre à venir au mois de novembre entre le Congo-Brazzaville et la RDC. De ce que tu as vu sur cette double confrontation, est-ce que tu as des espoirs plus pour la RD Congo, pour le Congo-Brazzaville sur cette rencontre? Qui vois-tu plutôt être au mieux pour l'instant?
Pour cette rencontre retour, moi je vois au mieux à la République du Congo, puisque à domicile, j'ai suivi attentivement le match contre le Libéria, que c'était une équipe qui avait ses caractères, il y avait des Pierre Bifouma, il y avait des Prince Onyangé, des cadres qui avaient cette envie de faire encore mieux, qui ont besoin d'écrire leur propre histoire. Alors que du côté de la République démocratique du Congo, on sent que ce sont des cadres qui se contentent de leur parcours, on sent que c'est une équipe qui doit en tout cas tout refaire. Puisque Jean-Floral Dengue, il est là, il avait tous les cadres possibles, les Cédric Bakambu, les Jordan Botaka et Chadra Kakolo. On n'a rien vu, en tout cas, de séduisant face lors de la double confrontation. Par contre, même si le Congo s'est incliné au Libéria, on sait que le Libéria, quand vous y jouez, c'est pas assez facile pour que vous puissiez vous y imposer. Mais on a vu que le Congo a fourni quand même des très belles notes, une très belle copie, un football séduisant, un football plaisant, contrairement aux Léopards de la République démocratique du Congo, qui certes ont eu une domination, mais une domination qui a été stérile à Kinshasa. Certes, la domination était là, du côté également des Harare, il y avait cette domination, mais elle était stérile. C'est là que Jean-Floral Dengue a pêché et a fait sa vente. Mais là, moi, personnellement, je pense que le Congo, le Diable Rouge, sont bien partis pour s'imposer lors de cette rencontre de la 5e journée.
C'est ce qu'on va voir, Marco Momo, avec vous, avec Christian Chango, avec Willy Dorkenou. Les équipes d'Égypte, de Madagascar, du Sénégal, de la Tunisie se sont qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2019 au Cameroun. À suivre dans Tout Feu, Tout Foot, bien évidemment. On sera là-bas, on sera sur Paris aussi pour vous faire vivre cette compétition avec nos correspondants, avec nos journalistes, avec nos experts du football. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des championnats africains. C'est Tout Feu, Tout Foot et c'est parti.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Sur Africa numéro 1, c'est le football africain à l'honneur. On va parler aussi dans quelques instants, dans cette première grande partie d'émission du football féminin à l'honneur au mois de novembre. Ça sera la Coupe d'Afrique des Nations dont on va parler tout à l'heure en vous donnant le calendrier complet. Avec d'abord, cette campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet au Cameroun. À suivre dans Tout Feu Tout Foot, ça sera l'année prochaine. Bien évidemment, avec toute l'équipe de Tout Feu Tout Foot, on pense au coach Lamine. Bien sûr à Willy Dorkenou, Christian Chango et moi-même pour vous accompagner, et l'ensemble des auditeurs qui nous contactent, avec aussi Salim qui sera avec nous aussi, et toute l'équipe, Marco Momo. On veut penser aussi à Patrick Lupica qui m'a contacté tout à l'heure, on lui fait un coucou, il nous écoute attentivement, Patrick aussi depuis la RD Congo. Mais ce soir, bien évidemment, on s'intéresse à cette campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. On l'a dit tout à l'heure, Christian, 4 équipes qualifiées pour le moment pour cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations.
Exact, le Sénégal et Madagascar dans le groupe A sont qualifiés, donc Guinée équatoriale et Soudan éliminés. Et dans le groupe J, la Tunisie et l'Égypte qualifiées déjà pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au mois de juin du côté du Cameroun. Et donc Swatini et le Niger éliminés dans le groupe J.
Et on voudrait parler, nous, du Kenya dans Tout Feu Tout Foot. On a tendance à dire, en tout cas les auditeurs ont tendance à dire souvent que, eh bien, on ne parle pas des petites nations de football. Woody Dorkenou, Christian Chango, on les fait, bien, tout simplement, on va démentir, puisqu'on on va parler du Kenya, et ça n'existe pas exactement, Christian. Groupe F, Woody, groupe F, Christian, Kenya, 7 points, premier. Avec eh bien cette nation aussi hein, qui a tendance eh bien à plutôt former des coureurs de marathon de semi, l'Éthiopie deuxième avec 4 points.
Exact hein, dans le groupe F hein, donc on rappelle hein, que donc la Sierra Leone avait été suspendue par la FIFA, là c'est en train de se régler. Donc là dans ce groupe là il y a juste donc Kenya Éthiopie et victoire nette et sans bavure du Kenya 3-0. Donc le Kenya qui est pour l'instant en tête dans ce groupe. Le Ghana n'a pas joué, donc il y a un match en moins. Mais le Kenya pour l'instant avec 7 points est en tête du groupe F et confirme autour du joueur Wanyama qui évolue du côté de Tottenham en Angleterre. Donc il a évolué sur le continent avant de s'exporter du côté de Tottenham et qui porte cette équipe vraiment. Mais il y a un beau collectif. Hein. Il y a un beau collectif.
Ça joue, Woody.
Ça joue, c'est dur, ça court, c'est technique. Il y a vraiment toutes les qualités réunies dans l'équipe du Kenya.
Oui, c'est pas un nouveau pays sur le plan football. Hein, bien qu'on les connaît plus sur le plan athlétisme.
Une terre de sport.
Terre de sport.
Ces deux pays-là. Le Kenya est devant, et deuxième l'Éthiopie, et on oublie de dire qu'ils sont devant le Ghana. Donc un pays en Afrique qui est devant le Ghana, comment tu peux qualifier un pays qui est devant le Ghana en Afrique d'un petit pays ? Et c'est pas possible.
Donc, en parlant de superficie.
Non, même pas. Là, je parle du jeu. Parce que le Kenya avait des clubs comme les Breweries et à Baluya du Kenya. Donc, c'est un grand pays de football. Si les gens ne sont pas au courant, moi, je sais que c'est un grand pays de football.
On est là pour leur préciser.
L'Éthiopie, pareil. Ouais. On les a vus à la CAN, ils n'étaient pas vraiment ridicules. Et on connaît l'Éthiopie à travers le club Saint-Georges. Et l'Éthiopie a été un gagnant de la CAN aussi.
Donc, alors messieurs, cette nation qui est tout proche d'une qualification, messieurs, ouais. et qu'il faut saluer peut-être, parce que ça reste effectivement peut-être l'un des petits poussés, on va le dire, de cette grande campagne de qualification, ouais. Même si ce n'est pas un petit pays, tu nous contrediras toujours, Woody Dorkenou, c'est l'Ouganda qui pointe à la première place dans ce groupe.
Elle, okay, je reviens sur toi,
10 pour points te dire. Devant la Tanzanie, le Cap-Vert et le Lesotho.
Pour te dire que moi j'ai fait une petite fugue, du côté du Togo pour aller regarder la CAN. J'étais au lycée et pour aller regarder la CAN 78 au Ghana.
Au Ghana.
Et les Cranes, c'est le nom de l'équipe nationale de l'Ouganda. L'Ouganda Cranes, les grues couronnées de l'Ouganda, qui étaient en finale face au Ghana en 78. Donc pour moi, ce n'est pas un nouveau non plus. Donc il faut avoir une petite idée sur l'histoire du football africain pour savoir que c'est des petits pays en Afrique, ça n'existe pas.
C'est pas un nouveau, effectivement, Christian Chango, l'Ouganda. Pour le moment, c'est un parcours presque parfait.
Oui, l'Ouganda, mais j'en parlais déjà un peu l'an dernier, il y a deux ans même, dans le journal, je parlais souvent de l'Ouganda, puisqu'ils sont sur la continuité là, depuis 2-3 ans. Ils ont des résultats réguliers.
Oui.
Et ils sont là, on regarde sur les dernières éditions de la CAN, l'Ouganda est à chaque fois présente. Et ils font toujours. Ils font pas honte. Ils jouent. Des fois, ils passent le premier tour de qualification. Mais l'Ouganda est une nation qui est toujours présente sur ces dernières années et qui fournit un excellent boulot. L'équipe avait été élue. L'Ouganda avait été élu pays de l'année l'an dernier, il y a deux ans, parce que c'est un pays où il y a du boulot, où le travail est bien fait.
Et sans oublier que le gardien ougandais était le meilleur.
Voilà, exactement, le gardien ougandais. Et Farouk Mia, là, dont je suis en train de regarder l'affiche, qui a lui a marqué les deux buts pour l'Ouganda, lui aussi qui continue. C'est un jeune joueur de 20 ans. Il joue du côté de la Croatie après avoir quitté l'Ouganda. Et,
c'est jeune, mais ça travaille.
Ça travaille. Ouais. Et puis, il y a des résultats. Donc, ils sont dans la continuité. Et puis, 10 points dans un groupe où il y a la Tanzanie, il y a le Cap-Vert, le Lesotho. Donc
c'est quand même parfait. Pour le moment, ça reste quasiment parfait.
C'est ça. Et à préciser, la Tanzanie qui a battu le Cap-Vert 2-0. Et donc, l'Ouganda qui a battu le Lesotho 2-0 également.
2-0, on le rappelle, au match aller, 3-0 pour l'Ouganda face au Lesotho. Le match d'avant, c'était 0-0 contre la Tanzanie, un bon score. Et contre le Cap-Vert, au Cap-Vert, l'Ouganda qui s'est imposé 1-0, c'était il y a un petit peu plus d'un an. Bien évidemment, on va s'intéresser à cette nation, l'Ouganda, de très près dans le groupe L.
Équipe à suivre.
Équipe à suivre. Ouais. Peut-être s'intéresser aussi, on était passé du côté de l'autre groupe où on a effectivement la RD Congo, le Congo. Ce groupe-là. Alors, on a bien sûr Florent Ibengué qui a pas mal de difficultés avec la RD Congo pour le moment. Vous nous avez donné votre analyse, votre point de vue. Christian, il y a autre chose qui va avoir lieu cette semaine.
Exactement.
Et c'est une compétition importante puisqu'elle est continentale.
Et oui, tout à fait, hein, du côté de l'Afrique. Hein, après les éliminatoires, il y a du football, toujours du football. Et là, ouais. Demain et mercredi, place aux demi-finales de nos deux compétitions continentales, la Ligue des Champions. Honneur à la plus grande des deux coupes, la Ligue des Champions. Demain, avec la demi-finale entre l'Espérance Tunis et Primeiro de Agosto, et dans l'autre rencontre, le Sétif face à Al Ahly, et mercredi en Coupe de la CAF, cette fois les demi-finales avec le Raja face à Enyimba et le V-Club, le Vita Club, l'équipe de Florent Ibengué face à Al Masry.
Voilà, Coupe de la CAF, Ligue des Champions, le programme vous a été annoncé par Christian Chango, vous saurez tout bien évidemment. Marco Momo, quel est l'état d'esprit des joueurs de Florent Ibengué avec l'AS Vita Club, bien sûr, sans parler bien sûr de la sélection de la RDC, puisqu'il a, il a la casquette de sélectionneur et la casquette d'entraîneur, et il a les moyens et les compétences de le faire. Comment ça va se passer cette rencontre et quel est l'état d'esprit qui règne au sein du Vita Club avant ce match en Coupe de la Confédération africaine de football?
Et justement, ce club s'est fait un peu de confiance, surtout en deux rencontres en Coupe en Ligue nationale de football, le championnat ici en RDC. Le club s'est imposé petitement d'abord pour son premier match devant Mungano, 1-0, mais le club s'est fait quand même un bol de confiance, même si la victoire était petite. C'était contre Lupopo, c'était le vendredi, 1-0. C'est vrai, Lupopo, c'est une grande formation ici en République démocratique du Congo, mais le club s'est imposé pour la confiance avant d'aborder ces matchs de demi-finale face à la formation d'Al-Masry. Certes, la confiance est déjà là du côté du club, surtout qu'il y a eu un très bon résultat lors de la manche aller avec ses 0 buts partout arrachés en Égypte devant Al-Masry. Et là, il suffira seulement avec le but d'éviter un match nul avec but et une défaite et s'imposer face aux Égyptiens. Geoffroy Ibengué compte surtout sur son homme à tout faire depuis cette campagne africaine en Coupe de la Confédération, Jean-Marc Makoussou Moundélé, et également sur ses garçons qui a été en sélection, Fabrice Ngoma Luamba, qui est en train également d'évoluer à un très haut niveau depuis qu'il a commencé avec l'AS Victoria Club cette saison.
On le rappelle, El Masry d'Égypte qui séjourne depuis la semaine dernière à Kinshasa, où ils vont affronter l'AS Vita Club de la République démocratique du Congo. Ils sont prêts, ils sont présents pour cette demi-finale retour, les Égyptiens. Allô, Marco Momo ? Allô, allô, on va...
Oui, les Égyptiens sont prêts, c'est vrai. Ils n'ont pas une pression à se mettre, puisque c'est le club qui reçoit. Alors, vous allez vous rappeler de ce qui est arrivé un peu plus tôt, il y a un mois de cela, la formation du tout-puissant Mazembe Angleterre, qui s'est contenté d'avoir arraché un match nul de 0 buts partout face à Primeiro de Agosto, mais qui malheureusement à domicile avait concédé un nul avec but, et c'est là que la formation égyptienne est arrivée à Kinshasa, pas avec cette pression. Déjà demain il y aura une conférence de presse, je pense pas que la formation d'Al-Masry va se mettre à cette pression. Je pense que la pression est du côté de l'AS Victoria Club, qui devra à coup sûr éviter un match nul avec but et éviter également une défaite. Et c'est là que ça passe. Il faudrait connaître des hommes en forme, tels qu'on l'avons dit à les Glody Ngonda, les Makoué. On peut parler également de Fabrice Goma, Nelson Munganga ou encore Nelson Lukong. Et il faudrait compter sur un public du stade Martyr de la Pentecôte qui, depuis un certain temps, est en train de bouder les mauvais résultats, ou encore si la partie n'est pas bien disputée, c'est un public qui est devenu exigeant. Espérons que c'est va pousser jusqu'à la victoire, l'AS Victoria Club.
Mmh. On va écouter Emmanuel sur le Congo, peut-être sur la CAN 2019 ou la Coupe de la Confédération africaine. Emmanuel, bonsoir, bienvenue sur la radio africaine. Vous souhaitiez intervenir, déjà supporter de quel pays, quel club? Rappelez-nous.
Oui, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Chango, bonsoir à Willy.
Bonsoir.
Citoyen.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Emmanuel, bienvenue.
Parce que vous ne parlez pas du Burundi, je suis supporter du Burundi.
Supporter du Burundi, effectivement.
Bon, mais là, je vais parler pour poser RDC.
On vous écoute.
RDC, c'est comme deuxième au pays. Je suis burundais,
ouais.
On est les frontières, on est pays frontières.
Oui, je me souviens, vous êtes juste à côté.
J'aime tous les équipes RDC. Je vous ai parlé pour le problème des coachs Ibengué.
Ouais. Oui.
Il est très, très, très bon entraîneur, mais le problème du coach Ibengué,
ouais.
Il est trop faible côté défensif.
Ouais.
Côté défensif, il est très, très faible. Le côté attaque,
ouais.
Il n'y a pas de problème. Parce que l'équipe RDC, il marque beaucoup. Le côté défensif,
ouais.
Il est trop, trop faible.
Vous parlez de la sélection, hein. On parle de la sélection.
Pour protéger d'abord la défense. Ouais. Comme un coach marocain, Hervé Renard.
Ouais.
Il a fait un bon résultat pour tout le monde.
Ouais.
Il a fait tous les 6 matchs, il n'a jamais cassé les billes. Il était qualifié pour tout le monde. C'est ça qui est le problème des Ibengué.
Mm-hmm.
S'il bloque la défense,
ouais.
Je sais que cette équipe-là, c'est là partout.
Emmanuel, peut-être une question à Marco Momo, on va lui poser directement. Marco Momo, est-ce que c'est un problème de défense, comme l'a dit Emmanuel?
Moi, du côté de la sélection congolaise, on sent qu'il y a un problème de défense. Hein.
Ouais.
Si on revient sur les différentes sorties, rencontres livrées par les Léopards, on sent que c'est à tous les coups qu'il y a un but encaissé. Depuis ces éliminatoires, il y a eu un 3-1 à Kinshasa.
Ouais.
Il y a eu également ces résultats qui ont été quand même bien négociés face au Libéria. Nous allons nous rappeler que face au Libéria, il y a eu un but partout. Il y a eu face au Zimbabwe. C'est à chaque fois que la République démocratique du Congo est en train d'encaisser et souvent ça passe par des erreurs également individuelles. Alors vous allez vous rappeler que lors du match contre les Libéria, c'est un problème de marquage avec Christian Luindama. Lors du match contre les Zimbabwe à Kinshasa, il y a eu d'abord des problèmes avec les gardiens Anthony Moussi, également un problème d'occupation des terrains. Lors du match retour, c'était encore plus pire parce que c'était une défense dépassée et Kama Bilias ne s'était pas prié pour marquer, pour signer l'ouverture du score. Là encore, là, totalement raison, il se passe un gros problème du côté de la défense, mais ça part également du milieu de terrain que je trouve un peu fragile face à des grands rendez-vous.
Merci Marco Momo. Woody Dorkono, tu voulais réagir?
Oui, je trouve que Emmanuel a raison, simplement parce que quand on voit, moi je retourne au niveau du V-Club,
ouais.
C'est-à-dire qu'à chaque fois on voit que le V-Club est en réaction, c'est-à-dire qu'ils prennent des buts et ils reviennent vers la fin.
Mm-hmm.
Pendant tout leur parcours, on a remarqué ça, donc
il
a raison peut-être que sur le plan, parce que des entraîneurs c'est quoi, ils ont des préférences ou bien ils ont des aptitudes à être mieux en attaque,
ouais.
Et pas très bien. Ça dépend du
moins,
parcours.
Et moins bien en défense.
Oui, ça dépend du parcours du coach.
Effectivement. On va rappeler justement l'actualité du football africain. C'est dans cette première partie. On va clôturer cette parenthèse de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui va se dérouler au Cameroun l'année prochaine, du 15 juin au 13 juillet. Ça sera au Cameroun et ça sera sur Africa numéro 1 à suivre à tout prix. Les équipes qualifiées, Christian Chango avec vous, on va le rappeler, avant de passer directement à la Coupe d'Afrique des Nations féminine.
Oui, le Sénégal, Madagascar dans le groupe A, la Tunisie et l'Égypte dans le groupe J, et bien sûr le Cameroun en tant que pays organisateur, sont les premières équipes qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun.
Et on va parler, eh bien, quand on quitte une Coupe d'Afrique des Nations, on en retrouve une autre. C'est la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Christian Chango, la 11e édition qui se déroulera du côté du Ghana.
Exact, Hakim. Il y a eu le tirage au sort hier du côté du Ghana. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2018 féminine qui aura lieu du 17 novembre au 1er décembre. Et donc, on va donner les deux groupes. Donc, dans le groupe A, il y a le Ghana, l'Algérie, le Mali et le Cameroun. Et dans le groupe B, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Kenya. Et le tenant du titre, hein, c'est le Nigeria qui est tenant du titre de la dernière Coupe d'Afrique des Nations féminine.
Ouais, double tenant du titre. Merci pour cette info, Christian, pour les auditeurs, les auditrices. N'hésitez pas à nous contacter pour nous donner votre avis sur la Coupe d'Afrique des Nations féminines. On en parle sur Africa numéro 1. On parle de sport féminin et de football féminin dans votre émission Tout Foot, Tout Foot. Christian Chango, Willy Dorcono à mes côtés. À la réalisation de cette émission, Hélène Bizio qui est avec nous pour nous accompagner. Sans faire de transition, Marco Momo, la RD Congo, le Congo, pas présent sur cette compétition, pour quelle raison?
Justement, en République démocratique du Congo, ça part de l'organisation du football féminin. Mmh. Je vous dirais que c'est dans les quelques centres-villes, les grandes villes du Congo qui se joue un championnat féminin. Par exemple, dans la région du Grand Katanga, c'est à peine qu'on retrouve 10 équipes féminines qui sont dans des conditions peu viables. Mm-hmm. Et à Kinshasa, on retrouve également des équipes qui sont dans des conditions fiables. C'est ça c'est là le grand problème. Il n'y a pas une organisation telle qu'on la voit avec la Ligue nationale de football dans la version masculine. Il n'y a pas cette organisation. Le championnat dans les bases au niveau des ligues provinciales, il n'y a pas ces suivis. C'est souvent, vous jouez un championnat avec deux équipes. Je me dis, c'est pas un championnat. Vous jouez également, vous vous retrouvez au niveau des ligues provinciales où il y a des équipes qui viennent par moment à nombre réduit. Par moment, il n'y a pas de championnat. On reconduit les équipes qui ont été sacrées ou qui ont occupé les deux premières places lors des éditions précédentes. Mmh. On ramasse des filles. C'est en fait ça le grand problème. Vous allez vous rappeler
c'est que l'organisation,
la République démocratique du Congo avait pris de l'envol puisqu'il y avait un comité, il y avait un soutien, il y avait un bon monde derrière ce football féminin. Mmh. Mais depuis un temps, il n'y a pas cette organisation.
Il n'y a pas cet engouement.
Il n'y a pas de sponsoring également. Ouais.
Pas de sponsoring également. Merci pour ces précisions, Marco Momo. Vous restez avec nous pour la suite des informations sur le football africain, sur le football européen. Bien sûr, on va accueillir dans quelques instants Adama Sourabié pour la Mejor Liga del Mundo. La Liga, según Adama Sourabié, selon Adama Sourabié, notre correspondant et journaliste du continent africain. Ensuite, on travaillera sur les résultats. On analysera les résultats de la Ligue 1 aussi pour voir un petit peu comment le Paris Saint-Germain prend son envol. Messieurs, votre avis peut-être sur cette Coupe d'Afrique des Nations féminines. Nigeria, Afrique du Sud, Zambie, Kenya dans le groupe B et dans le groupe A, Ghana, Algérie, Mali, Cameroun. C'est souvent les mêmes nations qu'on retrouve, Christian, Willy.
Oui, mais c'est normal parce qu'il y a très peu de participants. Donc, déjà, moi, j'ai vu la Côte d'Ivoire pendant la Coupe du Monde. Ils ont paru ridicules, mais au fur et à mesure que ça continuait, ils n'étaient pas du tout ridicules. Donc, il faut élargir un peu cela à 16, parce que 8, c'est trop peu. 8, ouais. C'est trop peu par rapport à la qualité actuelle, parce qu'en Afrique, on apprend vite, malgré que les gens pensent le contraire. Mm-hmm. On apprend très vite. Donc, le football féminin a évolué énormément en Afrique. Donc, 8, c'est trop peu.
Ouais, 8, c'est trop peu. Christian Chango, il manque des moyens au niveau des infrastructures. On a entendu le président de la Confédération africaine de football l'année dernière, Monsieur Hamad, parler sur le développement du football africain, notamment aussi son vice-président Constant Omari, dire que voilà, il y aurait également les assises du football africain concernant le football féminin. On entend des choses, mais peu d'actions qui sont faites.
Oui, mais ça prend du temps en fait. Si on voit souvent les mêmes pays qui reviennent, c'est que ces pays-là sont en avance sur d'autres nations africaines. Eux, je prends par exemple l'exemple du Cameroun et du Nigeria, ce sont des terres de sport, de football, et eux avaient déjà compris l'impact qu'allait avoir et le développement qu'il peut y avoir pour le football et par le sport féminin. Et donc ces pays-là ont anticipé déjà, ont donc déjà mis des moyens à disposition. Je rejoins totalement Marco Momo, pour la RDC, c'est pas étonnant, c'est que voilà, il manque de moyens mis à disposition, tout simplement. Mais c'est un processus qui se met en place, ça rentre dans les mœurs, et au fur et à mesure, le niveau va augmenter. Et, on voit une des plus grandes joueuses de football féminin au monde, c'est la Camerounaise qui évolue du côté de Rosenborg, si je me trompe pas. Donc le football féminin a toute sa place, comme le football des jeunes, comme le football senior, mais il y a un processus qui doit être mis en place, et on va y arriver petit à petit. Donc moi, ça me dérange pas qu'il y ait que 8 équipes, parce qu'au moins, ça resserre le niveau et la qualité.
On resserre le niveau et la qualité pour cette Coupe d'Afrique des Nations, on le rappelle, qui va se dérouler prochainement.
Oui, c'est dans peu de temps. 17 novembre, ça commence du côté du Ghana.
Voilà, ça sera à suivre dans Tout Feu Tout Foot également sur la radio africaine, la Coupe d'Afrique des Nations féminines, à suivre avec nous dans votre émission sportive Tout Feu Tout Foot. Le pays hôte et organisateur, c'est le Ghana. Ça se déroulera du côté de Accra. Les Nigérianes, double tenantes du titre, croiseront la route de l'Afrique du Sud dans le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. On le rappelle, il y aura aussi la Zambie, le Kenya dans ce groupe B avec le Nigeria. Et dans le groupe A, Ghana, Algérie, Mali, Cameroun. Et on le rappelle, les vainqueurs de cette, les deux finalistes pardon, de cette compétition, tout simplement disputeront la Coupe du Monde 2019 qui se déroulera chez nous, en France. Mesdames, Messieurs, à suivre hein, bien sûr dans Tout Feu Tout Foot. On va s'intéresser cette fois-ci aux championnats européens. On va voyager du côté de l'Europe et pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé du côté de la France peut-être avec bien sûr hein, l'ensemble des résultats dans un premier temps. Mais peut-être avant un petit jingle que vous connaissez bien.
Le championnat de France de Ligue 1 sur Africa numéro 1.
Et pourtant privé de plusieurs cadres, hein, on le rappelle, il y a eu Neymar qui était absent, Christian Chango, Willy Dorkenou, Adama Sourabier, bienvenido en la mejor Liga del Mundo, la Ligue 1, pas la Liga. Neymar, le PSG qui enchaîne, messieurs, mesdames, une 10e victoire en Ligue 1, impressionnant Christian.
Oui, pour le PSG, ben ils sont dans le rythme de croisière, hein, ils continuent. Donc l'équipe, les moyens mis à disposition font que cette équipe écrase le championnat. Donc pas de véritable surprise. Hein, 5-0. Le score est dur pour Amiens qui aura essayé, mais qui n'a pas pu faire mieux que les autres équipes avant elle. Mais Paris est en forme. Mais écoutez, moi, à titre personnel, Paris, je les attendais pas samedi, je les attends demain.
Paris, mercredi on plutôt. Les attend mercredi pour la Ligue des Champions européenne. Willy Dorkenau, quel est votre avis sur cette Ligue 1, sur cette 10e journée de Ligue 1 à l'issue de cette journée? On a vu un très très gros succès du Paris Saint-Germain face à Amiens au Parc des Princes. 5-0, Christian l'a dit, Chango, donc il nous l'a précisé. Attendons le Paris Saint-Germain aussi en Ligue des Champions, c'est votre avis?
Oui, parce qu'en Ligue 1, ils doivent être...
Ils sont au-dessus.
Ils doivent déménager en Liga parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire.
Elle vous entend, Adama Sourabier.
Je sais, je fais esprit de dire. Donc, ils doivent déménager en Ligue A. En Ligue 1, ils n'ont pas grand-chose à faire. Donc, on les attend, comme disait Christian, en Champions League. Donc, ça se passe bien. Donc, bravo pour des équipes comme Marseille qui se débrouillent malgré les absents pour faire de bons matchs. Et notre ami, le coach Vaïd. Donc bravo à
très
ces
bon
équipes-là.
Retour. Très bon retour du coach Vaïd Ali Lodzi qu'on va suivre avec le FC Nantes cette année. Il a régalé à la Beaujoire. Le grand retour de monsieur Vaïd, le bosniaque du côté de la Beaujoire. Il y a évolué en tant qu'attaquant.
Grand attaquant.
Bien sûr, en tant que grand attaquant. Du côté du Paris Saint-Germain aussi, hein, il avait évolué. Le FC Nantes qui a fait une belle démonstration de football face à Toulouse, 4-0.
Oui, mais j'avais peur pour lui parce que les méthodes de Vaïd ne correspondent pas au championnat français. Parce que j'ai vu... Et le problème de Ravanelli, parce que les joueurs français n'aiment pas travailler dur.
Tu veux dire que c'est la rigueur, c'est ça qui...
Ils ont peur de la rigueur.
Alors que quand c'est bizarre, puisque quand ils vont à l'étranger, on les entend qui disent « oui, ici on travaille plus et tout ». Donc ils acceptent de travailler plus, mais quand on est ici du côté de la France, on dirait qu'ils ont du mal à accepter cette rigueur justement que tu mets en
exergue. Il n'y a pas que la France, c'est comme les joueurs tunisiens. Ils sont tellement en l'aise à Tunisie que quand ils sortent, ils n'ont pas envie de travailler. Donc les Français, eux, ils veulent être à l'aise dans le championnat sans beaucoup travailler. Mais quand ils sortent, ils sont obligés de travailler. Mm-hmm. Donc Ravanelli a payé sa cash. Donc j'avais peur pour coach Vaïd, mais comme lui, il rigole très très peu. C'est un vrai sportif quoi.
On va voir peut-être les résultats d'une manière générale pour ensuite donner la parole à Adama Sourabier dans quelques instants parce qu'on va avoir une page commerciale dans quelques secondes. Avec vous Christian Chango, les résultats et le classement.
Les résultats de la 10e journée, donc l'Olympique Lyonnais a battu Nîmes 2-0, Paris Saint-Germain Amiens, on l'a précisé, 5-0 pour le PSG, 0-0 entre Caen et Guingamp, victoire du LOSC de Lille à Dijon 2-1, Nantes, on vient de le dire, 4-0 victoire face à Toulouse, Reims et Angers, un but partout entre les deux équipes, Strasbourg face à Monaco pour la première de Thierry Henry, victoire des Strasbourgeois 2-1, Hier, Montpellier face à Bordeaux, 2-0 pour Montpellier. Un but partout entre Saint-Etienne et Rennes avec encore un but de Cazeri. Et le match de 21h, Nice-Marseille. Grosse surprise, un excellent match, hein, j'ai pris du plaisir. Et 1-0, victoire de Marseille.
Ouais, victoire de Marseille sur un but eh bien, de...
Morgan Sanson.
Morgan Sanson, exactement. Avec le retour peut-être de Balotelli à souligner.
Oui, retour de Balotelli hein, et surtout une prestation de Nice dans le jeu où on voit la patte Vieira commence à se mettre en place petit à petit. Et ouais. Très honnêtement, d'habitude, je ne regarde pas Marseille le dimanche soir parce que je m'ennuie un peu. Mais là, hier, c'était vraiment c'était plaisant. Oui, un peu. On est difficile. Mais vraiment, c'était un match plaisant hier. Et félicitations et aux Niçois et aux Marseillais, puisque Willy l'a précisé, il y avait beaucoup d'absents du côté marseillais, ouais. Notamment Thauvin qui marche sur l'eau depuis deux saisons. Et Marseille a réussi à l'emporter, donc bravo Marseille.
Marseille qui fait partie des 5 premiers. On va tout de suite s'intéresser, Willy Dorkenou, à la Ligue 1 avec ce championnat. Et ensuite on passera à la Liga avant d'enchaîner sur eh bien, le journal de Christian Chango, le journal de Tout Feu Tout Foot avec des brèves croustillantes sur la Ligue des Champions Européennes, sur le football africain également. Vous saurez tout sur le ballon rond. Hein, j'allais pas dire ce que disait Pierre Perret. Hein. Donc on va s'intéresser tout de suite à cette Ligue 1, messieurs. 10e journée, c'est dans Tout Feu Tout Foot. L'analyse, on la décortique avec Adama Sourabier, Willy Dorkenou, Christian Chango à la réalisation de cette émission. Hélène Bizio et Hakim Djellouat pour vous accompagner.
Le championnat de France de Ligue 1 sur Africa numéro 1.
On le rappelle, c'est la Ligue 1 sur Africa numéro 1 dans Tout Feu Tout Foot, l'unique émission sportive, bien évidemment, avec un PSG qui enchaîne une dixième victoire en 10 matchs de Ligue 1. Christian Chango, on le rappelle, au classement, le PSG qui pointe eh bien, à la première place avec déjà 30 points.
Oui, c'est ça. Paris est premier avec 30 points, 10 matchs de victoire. En deuxième position, le LOSC, emmené par un Nicolas Pépé exceptionnel. En troisième position, Montpellier, égalité avec Marseille. Lyon, cinquième. Saint-Etienne, sixième. Strasbourg, septième. En bas du classement, Nantes, Monaco et Guingamp qui ferment la marche. Donc Monaco 6 points. Monaco hein, qui est vice-champion en titre hein, et là qui est au plus mal dans ce début de saison.
Même hier, on
ça reste un vrai challenge pour Thierry Henry.
Oui, mais un vrai challenge
pour Monaco.
Son challenge, c'est de ne pas aller en L2. Mais c'est tout, parce que ce qu'on a vu hier, ils n'ont pas de gardien. Après, il y a des blessés, ils ont joué à 10. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire dans ce match?
C'est ça. Hier, c'est vrai que c'était, enfin, samedi plutôt, c'est vrai que tout le sort s'acharnait. En plus, Falcao qui met un but hors jeu. Ouais. Il se blesse 5 minutes après. Donc, le carton rouge, comme tu l'as dit, Grand Cirque, il rentre, il joue une minute, il prend un rouge. Donc, c'est vrai que tout, du côté de la Méno à Strasbourg, tout allait pas dans le sens monégasque. Après, il y a la qualité des joueurs de Monaco. Peut-être que Thierry Henry va réussir à en tirer le meilleur. Ouais. On verra aussi au mercato. Mais il y a quand même, en termes de qualité, comparé à quand tu regardes les équipes de la deuxième partie du tableau, ouais. Monaco, en termes de qualité, est normalement est tout là-haut. Donc, et la chance pour Monaco, c'est que le classement est très serré. Tu vois qu'en 3 victoires, ils sont peut-être 10e. Quoi. En 2 victoires, ils sont 10e. Donc, il y a cette chance-là encore qui est pour eux. Mais attention, puisque
ça va aller très attention à ne pas laisser
et
des
surtout
points.
La chance de Thierry Henry, c'est qu'il il est très travailleur.
Et très proche des joueurs. Hein.
C'est un peu le genre de coach Baïd, mais un peu plus souple. Il est très... Il connaît le foot.
Il est discipliné aussi.
Très discipliné, il sait ce qu'il fait. Donc, je suis sûr qu'il va rester quand même en...
Il va garder la tête haute et essayer justement de viser la moitié du tableau pour pouvoir remonter avec Monaco qui pointe à la 19e place. On va demander à Adama Sourabier, notre correspondant et journaliste depuis l'Espagne, depuis Barcelone,
El mejor.
Où il est, et aussi spécialiste du football africain. Adama Sourabier, bonsoir. Bienvenue sur la radio africaine et dans Tout Feu Tout Foot.
Bonsoir à toute l'équipe de la Radio Africa numéro 1. Bonsoir à Hélène, bonsoir au doyen Willy, bonsoir au jeune frère Christian et bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de cette grande radio continentale. Buenas noches, Bienvenue dans
muchas gracias, hermano.
À la meilleure Liga del Mundo. Adama Sorabie, quel est votre avis et quel est justement votre œil sur la Ligue 1 voilà, déjà par ce positionnement de l'AS Monaco à la 19e place, le PSG qui rafle tout pour le moment, 10 matchs, 10 victoires, 30 points, le LOS qui tient bon avec une nouvelle génération de joueurs qui assure plutôt bien, et Montpellier qui revient là avec un bon résultat, 3e du championnat.
Oui, ça va très très vite en football. On a vu les 3 dernières saisons au niveau de la Ligue 1 française, Monaco était parmi les meilleures équipes. Aujourd'hui, Monaco occupe la 19e place. Je pense que, voilà, il y a des moments comme ça dans le football. On se rappelle que Monaco avait fait le beau temps à l'époque, avant de connaître la Ligue 2.
Oui.
Et aussi revenir en Ligue 1. Et après leur retour, on les a vus que c'était, il y a 3 ans, c'était l'une des meilleures équipes de la Ligue 1 française. Oui, quand on regarde la Ligue 1 française, française, on s'est dit que il faut enlever le Paris Saint-Germain et le championnat se joue entre les autres équipes.
Ouais.
Si vous jetez un regard par rapport aux différents championnats européens, le Paris Saint-Germain est déjà sacré champion de France. Mais vous voyez,
ouais,
10 matchs, 10 victoires et la différence des points entre le premier et le deuxième,
ouais, 8 points,
on le voit pas ailleurs. Et donc, comme l'a dit le Dorian Willy, qu'il faut
faire déménager le Paris Saint-Germain,
déménager, ouais,
à Madrid
au niveau de la Liga. C'est vrai, quand on dit l'Espagne c'est la meilleure Liga del Mundo, regardez, le niveau de compétitivité est très très élevé.
Mm-hmm.
Ouais. On ne peut pas dire qu'en fin de journée, j'y vais comme favorite pour aller gagner et prendre mes 3 points et revenir chez moi au show. Non, ça n'existe pas à la Liga.
Ouais,
et la preuve en est que, regardez au niveau du classement, ça reste encore toujours serré.
Toujours, ouais, effectivement.
Voilà, ça reste encore toujours serré. Et pour vous dire aussi, dans les coulisses, Julien Lopetegui, qui avait lâché la sélection espagnole,
ouais,
pour le Real de Madrid, et n'est presque plus l'entraîneur de la Casablanca, mais demain, il sera sur le banc de touche, mais je ne suis pas sûr s'il va terminer la saison, et s'il va terminer la semaine en tant qu'entraîneur du Real de Madrid. Ça ne pardonne pas en Espagne.
Oui,
ça,
mais il n'a pas lâché la sélection, il a été viré, et de deux, comment une équipe qui n'a pas fait de recrutement depuis, ils ont perdu James Rodriguez, ils ont perdu Morata, ils ont perdu beaucoup de joueurs qui n'ont jamais remplacé.
Et Pépé pourquoi en défense,
c'est ça. Mais soyons sérieux. Ouais. Et c'est pas Lopetegui qui va payer pour ça. C'est un club qui pense qu'ils vont tout gagner, même avec ma grand-mère. Non, mais soyons sérieux. Donc, c'est leur faute.
Oui, Doyen. Et cela ne. On ne peut pas indexer que le Real de Madrid. Barcelone a compris il y a 2 ans, ils ont commencé à porter du 109. Hein, au sein de cette équipe du Barça.
C'est ça.
Et donc, le Barça arrive. Et moi, je suis séduit par le jeune Brésilien Arthur. Et quand je le vois manier le ballon au milieu de cette équipe de football club de Barcelone, il me ramène un peu, je ne sais pas si vous suivez ce garçon, à Xavi,
oui,
à Iniesta.
Dans le style, ouais. Effectivement.
Voilà, dans le style. Et Madrid n'a pas fait cela.
Oui,
Madrid,
c'est ce que j'ai dit.
Voilà. Et je pense qu'il y aura un vide au niveau du Real de Madrid, ils vont changer les entraîneurs comme il se doit, mais ça ne peut pas fonctionner.
Non.
Vous avez vu le niveau de Ramos? Vous avez vu la sélection, la Roja, l'autre jour contre l'Angleterre.
C'était compliqué. Il tirait la langue, voilà. Effectivement. Adama Sorabie, on va juste rappeler peut-être le classement de la Ligue 1 pour ensuite voyager du côté de chez vous. On va prendre rapidement un jet privé pour vous rejoindre du côté de Barcelone et on va poser notre avion du côté du Camp Nou rapidement avant peut-être le classement, Christian Chango, de cette Ligue 1 à l'issue de la 10e journée.
Le classement Paris premier, Lille deuxième, Montpellier troisième à égalité avec Marseille, Lyon cinquième, Saint-Etienne sixième, en bas du classement Nice est 14e, Nantes 18, Monaco 19 et Guingamp 20e.
Vamos en la Liga, allons à la Liga tout de suite.
La Liga espagnole sur Africa numéro 1.
Adama Sourabié, bienvenido.
Estamos aquí, la mejor liga
del mundo.
Estamos en Barcelona, en la Rambla. Nous sommes du côté de la Rambla en Espagne. Ça y est, on est arrivé, on a atterri. Nous sommes avec Adama Sourabié. Avec vous, auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à nous contacter au 01 55 07 58 00. Depuis l'international, 00 33 1 55 07 58 00. Depuis partout dans le monde, vous pouvez nous écouter, intervenir, réagir sur le www.africa1.com. N'hésitez surtout pas, une seule adresse pour nous contacter, pour nous écouter. www.africa1.com. Vous pouvez également intervenir sur notre page Facebook /toutfeutoutfoot ou éventuellement via les réseaux sociaux comme Twitter, mais notamment aussi Insta, etc. Adama Sourabié, que se passe-t-il du côté de la Liga? Peut-être avant, on va avoir les résultats avec Christian Chango
et
également une photographie de ce classement de cette Liga espagnole.
Oui, les résultats donc de la 9e journée de la Mejor Liga del Mundo. Celta Vigo, Alavés, 1-0 pour Alavés. Real Madrid, Levante, victoire de Levante, 2-1 au Bernabéu. Match nul, 1-1 entre Valence et Leganés. 1-1 également entre Villarreal et Atlético de Madrid. Barcelone a battu le FC Séville 4-2. Le Rayo Vallecano a perdu à domicile face à Getafe 2-1. Eibar, Atlético Bilbao 1-1. Huesca a perdu 2-0 à domicile face à l'Espagnol Barcelone. Le Betis Séville également s'est incliné à domicile 1-0 face à Valladolid. Et il y a la Real Sociedad et Gijón qui s'affrontent actuellement, si je ne me trompe pas. Et au classement, Barcelone, premier avec 18 points, deuxième, l'Espagnol Barcelone avec 17 points, troisième, Alavés, 17 points, Séville, quatrième, 16 points, Atlético Madrid, cinquième, 16 points, le Real, septième avec 14 points. En bas du classement, Leganés, le Rayo Vallecano et Huesca.
Et Huesca, alors Adama Sourabié, une petite photographie peut-être concernant ce championnat de Liga qui est fou, puisqu'on parle de départ de Lopetegui, comme vous nous l'avez souligné tout à l'heure en prélude, en sommaire de cette Liga. On voit un Lionel Messi, puisque vous avez assisté, on le rappelle, vous étiez sur le banc de la cabine média presse du côté du Nou Camp au FC Barcelone pour assister à ce match entre le FC Séville et le FC Barcelone.
Oui, c'est vrai que cette journée était un peu spéciale parce que c'est le leader qui s'est déplacé chez son dauphin. Mmh. Et donc, il fallait que le Barça arrive à surmonter cette équipe de Séville qui n'a pas été une équipe ridicule parce que elle a joué crânement sa chance et le football. C'est vrai que quand on est au Camp Nou, c'est vrai que au Camp Nou, il faut pas faire deux erreurs. Mmh. Et ben quand tu fais deux erreurs,
ça paye cash.
Voilà, dites quoi. Donc Lionel Messi, premièrement c'était Coutinho, le premier but était Lionel Messi qui est sorti sous blessure et à la 16e minute, mais je vous dis, c'était un silence incroyable dans ce stade. Quand Messi s'est torturé de douleur, mais on pouvait entendre les mouches voler dans ce stade.
C'est hallucinant.
C'est hallucinant.
Hallucinant comme le public est finalement fan de ce joueur et l'apprécie tant bien que mal, bien sûr, par rapport aussi à son comportement, parce que c'est souvent avec beaucoup de modestie qu'il célèbre un but ou quand il repart avec une victoire.
Oui, mais il n'y a pas que ça, parce que en championnat, vraiment, on a besoin de lui en championnat, mais surtout en Champions League. Donc,
cette blessure, les
Catalans, ils ont envie de regagner ce trophée. Donc, un Messi blessé, c'est dangereux pour eux.
Et surtout, il y a le Classico qui approche. Donc, on sait que. Voilà, c'est ça. Donc, puisque là, il y a quand même un gros match avant le Classico. Barcelone va affronter, on en parlera tout à l'heure, l'Inter en Ligue des Champions mercredi. Et après, ce week-end, ils vont affronter Bernabéu, ils vont affronter, pardon, le Real Madrid. Et on sait très bien l'importance qu'a ce match. Et dans ce match, tout le monde a envie de voir Messi. Qu'on aime ou pas le Barça, qu'on aime ou pas Messi, c'est une affiche où, quand on sait que Messi n'est pas là, on a quand même un petit arrière-goût puisque ce joueur-là, il déclenche les passions. Et puis, tu parlais de célébration. Les seules fois où il se permet des petits écarts, c'est quand il bat le Real Madrid en montrant son maillot aux supporters. Mais c'est vrai que donc, c'est une absence regrettable pour tous les amoureux du football.
Absence regrettable.
Oui, vous saviez que ce serait une Liga, si un Classico, sans Lionel Messi et Cristiano.
Et Cristiano, c'est vrai, c'est la première fois depuis des années.
Une première, effectivement. Et que dit justement la presse par rapport à cette absence, par rapport à cette blessure, Adama Sourabié, l'absence de Lionel Messi, elle est discutée, elle est.
Et qui va le remplacer?
Et qui va le remplacer exactement? Très bonne question de Christian Chango.
Qui va le remplacer? Le jeune international français Ousmane Dembélé pouvait avoir la chance, mais le samedi dernier, il était l'ombre à lui-même. Mmh. Et ce garçon, il n'arrive toujours pas à se concentrer,
à mettre
son talent au devant. Et donc, aujourd'hui, qui va remplacer Lionel Messi? Je crois qu'il y a un certain Malcolm qui était du côté de Girondins de Bordeaux, qui est en ce moment à Barcelone, qui est censé remplacer Messi. Si jamais
grosse responsabilité, avait
la chance d'avoir la confiance de l'entraîneur et du vestiaire. Parce aujourd'hui, le vestiaire est énervé. Et les pertes des balles de Ousmane Dembélé, il y a beaucoup de choses. Donc les gens commencent à en avoir un peu marre. Voilà.
Il y a beaucoup de discussions autour de Ousmane Dembélé. Woody Dorkenou, il ne fait pas l'unanimité.
Oui, mais c'est un grand joueur.
Il a été sifflé plusieurs fois. Une chose que moi, je n'ai pas l'habitude de voir sur Camp Nou.
Oui, mais les gens qui sifflent Dembélé, les supporters, eux, ils n'ont pas une idée vraiment précise sur le football. Dembélé, c'est un grand joueur qu'il faut essayer de canaliser parce qu'il est très jeune aussi.
Il a 21 ans.
Oui, mais c'est un joueur qui perd. Parce que quand on tente des choses, on perd des ballons. Ouais. Donc, on ne va pas rester dans les gradins et siffler des gens. Ça je suis contre. Mais c'est un joueur qu'il faut canaliser et c'est tout. Mais remplacer Messi, ce n'est pas remplacer Messi. Il ne faut pas jouer à 10.
Non. Peut-être opérer.
Messi, il faut être à 11 et jouer.
Peut-être opérer tactiquement différemment avec des joueurs Christian Chango.
Oui, c'est ça, Kim. Et juste par rapport à Ousmane Dembélé, il faut rappeler que il est rentré de la Coupe du Monde. Il a écourté ses vacances pour reprendre l'entraînement avec Barcelone. Il a fait un gros début de saison. Le premier mois, quand même, était Adama, tu me contrediras pas,
productif.
Était quand même plutôt bon. On l'a vu mettre des cacahuètes, c'est-à-dire on l'a vu mettre des top buts qui ont fait gagner beaucoup de points à Barcelone. Après, il a eu un petit coup de mou. Son entraîneur Valverde l'a remis sur le banc de touche pour le piquer un peu, pour qu'il reprenne, qu'il continue son travail. Mais Ousmane Dembélé, il a 21 ans, il y a 3 ans, il joue en CFA du côté de Rennes, il a fait Rennes, il a fait Dortmund, et là c'est que sa quatrième saison en pro, mais c'est déjà sa deuxième à Barcelone, donc il faut le polir. Lui, c'est l'expression de polir un diamant, bah lui c'en est l'exemple même, il a que 21 ans, et il faut le driver pour l'emmener le plus loin possible, puisqu'il a les qualités, il a des qualités que les supporters barcelonais
adorent. Et la même chose en équipe de France aussi.
C'est la même chose.
Donc il faut savoir ses qualités, parce que les joueurs, on les juge par rapport à leurs qualités, ce qu'ils peuvent apporter à une équipe. On les juge pas par rapport à leurs prestations à une heure et demie, c'est n'importe quoi.
Oui, doyen aujourd'hui, Dembélé, Ousmane Dembélé a la confiance de son entraîneur.
Oui.
A la confiance, et il ne faudra pas que Valverde et Ernesto se fatiguent un jour, parce que malgré tout ce que ceux qui ont sifflé, je connais le côté du gradin qui ont eu lieu.
D'accord, ce joueur-là, okay. Je vois le genre.
Réellement, les Français, généralement, qui viennent pour les matchs du Barça, c'est sur ce côté. Et même au niveau de la zone mixte, c'est les journalistes français aussi qui étaient beaucoup critiques envers ce jeune-là. Ouais. Moi, j'ai envie qu'il ne perde pas la confiance de son coach, puisqu'on sait qu'il a des qualités.
Oui, on connaît le foot ou on ne connaît pas le foot. Je sais qu'en France, les gens ils n'ont pas une grande idée sur le football. Donc, un joueur comme ça, mais Dembélé, c'est un grand joueur.
Ouais.
Mais en équipe de France, c'est l'un des joueurs les plus talentueux. Il y a beaucoup de talent.
Ça reste l'un des plus talentueux, effectivement.
Mais, plus que des joueurs dont on crie les noms actuellement. Mmh. Si on sait ce que c'est que le foot, hein.
On va rappeler, Christian, peut-être le classement de cette Liga,
bien sûr.
La mejor Liga del Mundo.
Le classement avec un doublé Barcelone, avec Barcelone premier, le FC Barcelone avec 18 points, l'Espagnol Barcelone avec Tomán Cano comme entraîneur des gardiens, deuxième avec 17 points, juste derrière Alavés à égalité, Séville quatrième, l'Atlético de Madrid cinquième, Valladolid sixième, le Real pointe qu'à la septième place. déjà 4 points de retard sur... sur le Barça. Valence est 14e, Villarreal 15e, Leganés, le Rayo Vallecano et Huesca ferment la marche en pas de classement de la Liga.
Adama Sorabi, vous restez avec nous. Votre avis en conclusion sur cette justement Liga et cette journée qu'on vient d'analyser, Adama Sorabi. Est-ce que ça va être compliqué pour le Real Madrid, mais notamment aussi pour le FC Barcelone sans Messi, déjà pour le Classico, et on va en parler hein, juste après, bien sûr, de la Ligue des Champions, l'Europa League également. Adama Sorabi.
Oui, oui, effectivement, je crois que ce classico va être un classico un peu spécial.
Ouais.
Le Barça n'a pas sa défense au complet. Mm-hmm. Et le Real a une défense qui est fébrile. Et Mbappé qui n'arrive pas à répondre aux attentes des supporters de la Casablanca. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je pense que ce classico, moi, j'ai l'envie de le voir et je suis pressé de voir ce classico sans Cristiano, sans Messi, mais je veux voir le système tactique des entraîneurs en ce moment.
Ouais.
Voilà, pour gérer le monde qu'ils ont sous la main.
Ouais, c'est...
Moi, je pense que ce match, ce classico, sera un classico à nul parce que je ne vois pas le Barça remporter ce classico ou Madrid. Ça va être un classico serré.
Classico serré à suivre la semaine prochaine. C'est en fin de semaine, pardon, ouais. Christian,
oui, c'est ça,
FC Barcelone, Real Madrid.
Ouais, ça va être serré simplement parce que la Maison Blanche est en crise. Hein.
Donc... Ouais, ça va être compliqué hein, à suivre hein, dans Tout Feu Tout Foot, messieurs. On va s'intéresser tout de suite au journal de Tout Feu Tout Foot avec vous, Christian Chango.
Avant d'amorcer la partie Ligue des Champions pour discuter, pour conclure cette émission, on va donner 2-3 informations du continent et je vais vous parler d'un jeune joueur marocain, Shadi Yakiri. C'est le milieu de terrain de 18 ans qui évolue du côté du Raja. Il est prêté avec option d'achat pour 2 saisons du côté du Deportivo La Corogne. Il a été repéré avec la sélection U20 du Maroc lors du tournoi COTIF organisé donc l'été dernier dans la province de Valence du côté de l'Espagne. Donc bon vent à ce jeune milieu de terrain, en espérant pour lui que ça puisse se concrétiser. Et puis ça met en avant aussi la formation marocaine hein, avec la formation du Raja.
Oui, mais c'est dommage parce que et partir si tôt, c'est toujours dommage parce que...
C'est dommage pour le club formateur?
Non, pas pour le club formateur, pour l'athlète même. Parce que partir plus tôt de l'Afrique, la plupart des grands joueurs africains ont déjà évolué en Afrique.
Mm-hmm.
Si on crie Neymar à l'heure actuelle parce qu'il est resté longtemps au Brésil.
Donc, ouais, c'est dommage. Adama Sorabi, c'est votre avis suite à ce transfert?
Oui, je pense que c'est... On rêve tous de partir de notre continent pour venir évoluer en Europe, mais l'Europe, c'est pas du tout facile quand
un jeune
comme ça tombe dans un club comme le Deportivo de la Corogne. S'il n'est pas bien encadré, il n'est pas bien soutenu, on peut zapper son moral. Quand vous regardez, on a un très bon jeune marocain qui évolue du côté des Bétis de Séville.
Mais
on en est où avec lui aujourd'hui? La question, elle est là. Donc, il faut donner la chance aux jeunes de mûrir d'abord chez nous avant de partir.
Ouais, la parole sage d'Adama Sorabi, notre journaliste et correspondant depuis
important.
L'Espagne. Christian Chango, on vous écoute pour la suite.
Oui, pour la suite, une autre nouvelle qui concerne Rigobert Song, qui a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun des moins de 23 ans. On rappelle qu'il avait été victime d'un AVC en 2016. Il s'occupait jusque-là de l'équipe A' du Cameroun qu'il avait emmené au CHAN 2018.
Ouais.
Donc là, sa mission va commencer le mois prochain avec la réception du Tchad pour le premier tour des éliminatoires de la Cannes U23. Et dernière information qui concerne le continent, donc il y a eu des rumeurs suite à un possible remplacement d'Hervé Renard par Carlos Queiroz au poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. Et le président marocain de la Fédération marocaine de football, Faouzi Lechka, a démenti, et je le cite, « Le principal objectif fixé est de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons fixé la date du 16 juillet prochain au lendemain de la CAN à venir du côté du Cameroun pour l'évaluation du travail du sélectionneur national. La Fédération marocaine de football respecte ses engagements envers Hervé Renard, en qui nous avons une grande confiance et qui nous avons prolongé jusqu'en 2022. »
Ouais, c'est une bonne nouvelle pour Hervé Renard.
Une très bonne nouvelle, parce que c'est un coach qui a beaucoup confiance en l'Afrique, parce que pour amener quelqu'un très loin, il faut avoir confiance en cette personne. Donc, Hervé Renard a vécu sur le continent et il a beaucoup confiance dans le football africain.
Oui, il y a une grande confiance qu'il accorde à Adama Sorabi. Est-ce que pour vous, Hervé Renard, c'est la solution? En tout cas, c'est la bonne suite parce qu'il y a de bonnes choses qui sont faites avec
Cannes 2017, Hervé. Quart de finale, Coupe du Monde, ils n'ont pas été ridicules. Donc,
Oui, moi je pense qu'il faut laisser les entraîneurs travailler sur une longue durée. Mm-hmm. C'est vrai que je félicite la Fédération marocaine de football. Il suffit pas de faire signer les entraîneurs, mm-hmm. en 6 mois les remercier. Et donc le travail il reste toujours inachevé. Ouais. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose.
On va demander à Bandera. On va demander à Bandera rapidement en quelques secondes son avis sur la suite ou non de Hervé Renard. En tout cas ça a été confirmé par la Fédération royale marocaine de football. Monsieur Bandera, bonsoir, bienvenue. Rapidement en quelques secondes parce qu'il nous reste pas longtemps pour la suite des informations.
Bonsoir la Dream Team de Africa.
Bonsoir.
Africa 22 Sport vous envoie la santé depuis la Bretagne dans le col d'Amour dans le 22.
Vous avez une petite voix. Hein.
Oh, il a l'air malade.
Du côté de la Bretagne. On vous écoute, Monsieur Bandera, concernant Hervé Renard. Votre avis?
Non, je pense que c'est une excellente nouvelle. Le coach à la chemise blanche, mondialement connu, je trouve que c'est très très bonne nouvelle pour l'équipe du Maroc, de la continuité, puisque la démonstration qu'il avait effectuée tout récemment pour la Coupe du Monde de football, c'était de changer un coach en coup de transition comme ça, ce n'est pas bon du tout. Donc je trouve que très très bonne nouvelle pour le football marocain et en l'occurrence pour le football africain.
Merci beaucoup. Rappelez-nous le nom de votre émission et comment on peut vous joindre.
Justement, le doyen.
On vous écoute, allez-y.
Donc, c'est Africa 22 Sports, c'est tous les vendredis via le site de radio-active.com. Tous les vendredis de 18h à 19h, c'est une émission qui défend vigoureusement les valeurs de l'Afrique à travers le sport, comme Africa numéro 1, mais en petite miniature.
Mais on vous écoutera et on partagera votre site sur la page de Tout Feu Tout Foot. Merci beaucoup.
Africa 22 Sports cherche un correspondant depuis le Maghreb.
C'est noté. Merci beaucoup Bandera, on se retrouve très très vite.
Merci.
Christian, on continue.
Oui, on continue, je vais vous donner donc les calendriers des matchs demain, des matchs principaux pour la Ligue des Champions européenne. Alors, il y a le retour de Cristiano Ronaldo avec la Juventus à Old Trafford, Manchester United face à la Juventus. Dans les autres rencontres, le PSG va affronter Naples, Dortmund face à l'Atlético Madrid, Barcelone va affronter l'Inter Milan, Liverpool va affronter l'Étoile Rouge, Monaco va du côté de la Belgique affronter Bruges, le Shakhtar face à Manchester City et le Real Madrid face au Victoria Pilsen et Valence va du côté de la Suisse affronter les Young Boys. Donc on croise les doigts pour les équipes françaises, hein, pour Monaco face à Bruges et pour le PSG face à Naples, et on espère aussi une victoire du Real avec un but de Karim Benzema, pourquoi pas
Christian Chango, Willy Dorkonou,
et Monaco a d'autres chats à fouetter, comme on le dit,
d'autres chats à fouetter avec Thierry Henry. On va remercier Adama Sorabié d'avoir été à nos côtés pour analyser le football africain, le football espagnol, la mejor liga del mundo selon Adama Sorabié. Merci Adama Sorabié d'avoir été à nos côtés.
Merci à vous tous.
À la prochaine, best hermano.
À Christian Chango d'avoir préparé cette émission et d'être à mes côtés. Merci à Willy Dorkonou.
Merci Hakim, merci la belle Hélène.
Pour sa présence et son analyse du football africain avec son expertise avec Christian Chango. On le rappelle, on vous donne rendez-vous avec Willy Dorkonou et moi-même, Hakim Djellouat et le coach Lamine Badiane, dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission Tout Feu Tout Foot. Merci à la réalisation de cette émission, c'était Hélène Bizio. On remercie aussi tous les auditeurs, toutes les auditrices qui nous ont contactés. N'hésitez pas à rester connectés sur Africa numéro 1, www.africa1.com, à nous écouter également via le 107.5 à Paris, 92.3 à Melun, à Mantes-la-Jolie, c'est simple, 87.6. Vous pouvez également nous écouter dans le nord de la France avec le DAB+ à Lille ou sur internet, on vous l'a dit, depuis partout dans le monde, www.africa1.com. Et vous pouvez aussi intervenir sur notre page Facebook, réécouter l'émission Tout Feu Tout Foot, c'est simple, sur le www.africa1.com. On vous remercie, c'était Hakim Djellouat avec Willy Dorkonou, Christian Chango et Hélène Bizio à la réalisation. On vous souhaite une excellente semaine, portez-vous bien.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.